Candide et les experts. Une émission produite par Monique Fauché.
André Cabanis, bonjour.
Bonjour.
Alors, je vous présente à nos auditeurs, mais je ne sais pas si c'est nécessaire, parce que je pense qu'on vous a entendu déjà plusieurs fois sur cette radio, mais sur d'autres radios aussi.
Grâce à vous.
Oui, sans doute, mais pas seulement. Vous êtes professeur en histoire du droit à l'Université Toulouse-Capitole, professeur également à l'étranger, où vous avez, j'allais dire, sévi, mais non, pas sévi, évidemment, mais vous êtes allé souvent faire des cours et des conférences en Afrique en particulier, mais même en Chine.
Hein ? Oui, en effet.
Au Japon, peut-être ?
Non, jamais le Japon, en revanche.
Ah, bon.
Je ne sais pas pourquoi, ils se sont privés de moi.
Alors, vous étiez directeur du Centre de recherche et d'information sur le droit à l'information, directeur de l'Institut d'études politiques de Toulouse pendant 15 ans, ceci, vice-président de l'Université Toulouse-Capitole, directeur des presses universitaires de Toulouse-Capitole. Bon, et puis, vous avez écrit de nombreux ouvrages. Et moi, j'avais noté que vous aviez écrit « L'Europe de Victor Hugo » avec Daniel Cabanis, votre épouse. Mais d'autres ouvrages, vous en avez en tête ? Vous avez des titres ?
Oh oui, on a écrit un ouvrage, un livre sur l'histoire économique de la France, un ouvrage sur les idées politiques, hein, depuis les origines jusqu'à nos jours. Et j'en oublie certainement, oui. On a pas mal écrit ensemble.
Alors, revenons à 1814, du moins avant 1814, puisque nous apprenons que Napoléon, qui a sévi quand même dans toute l'Europe, vous dites que c'était un grand homme, un génie, oui, par certains côtés, mais quand même dangereux. Quand même. Bon, moi, je le comparais à Poutine, mais Poutine n'a pas écrit de code civil. Hein.
À ma connaissance, non, c'est sans doute mieux.
Sans doute, oui. Toujours est-il que, bizarrement, le 31 mars 1814, il y a une journée de combat et Napoléon signe une abdication inconditionnelle. Ça, c'est le 6 avril. Or, il signe le traité de Fontainebleau le 11 avril. Et avec le maréchal Ney, Macdonald suggère que Caulaincourt, ses plénipotentiaires et ses ministres d'Autriche, de Russie et de Prusse signent également. Et tout ça se fait donc très bien. Napoléon abdique donc sans condition. Et pourtant, il va y avoir une bataille à Toulouse. Alors, on verra si c'est une vraie bataille. Alors, à quoi rime cette bataille qui va faire quand même de nombreuses victimes ?
Ben, c'est-à-dire les Anglais avaient débarqué au Portugal, mais plusieurs années auparavant, pour essayer justement de reprendre le contrôle de la péninsule ibérique. Ils s'étaient alliés avec les Portugais et ils avaient remonté toute l'Espagne avec Wellington à leur tête. Wellington, le futur vainqueur de Waterloo. Ils avaient alors avec des victoires, des défaites. Les Espagnols, du moins ceux qui étaient hostiles aux Français, s'étaient joints à eux. Et cette armée avait traversé toute l'Espagne en repoussant devant elle l'armée du maréchal Soult, jusqu'ils étaient entrés en France par l'Ouest. Et ils s'étaient arrêtés à Bordeaux, qui les avait bien accueillis. Et ils continuaient leur marche en avant jusqu'à Paris.
Bien accueillis à Bordeaux également.
Oui, c'est Bordeaux, on en a parlé la semaine dernière. À l'époque, il y avait le blocus continental qui empêchait le commerce international. Oui. Et ça, les Bordelais n'aimaient pas du tout.
Oui, puis ils avaient des acquaintances avec les Anglais, hein, déjà.
Oui. Ils sont anglicans parce qu'ils peuvent... Ils sont protestants parce qu'ils ne peuvent pas être anglicans.
La question que je me posais, on a dit que donc, les Toulousains en particulier n'étaient pas informés de l'abdication de Napoléon. Est-ce que c'était une lenteur des informations ou des fausses nouvelles qui étaient divulguées ?
C'était les deux. C'était une lenteur des informations, une lenteur. Les informations étaient transmises par des courriers à cheval, donc il faut un certain temps. Et puis, par ailleurs, il y avait une méfiance d'un complot qu'on fasse croire au maréchal qui commandait les troupes françaises et à son état-major que la guerre était finie et donc l'empêcher de combattre. les deux éléments ont joué.
Alors, en revanche, comment nous sont parvenues les informations sur les affrontements dans Toulouse?
Alors, il y a eu un certain nombre de témoignages. Il y a eu pas mal de livres. Hein. Pratiquement un an, moins d'un an après la guerre, après la bataille, il y a eu un livre anonyme d'ailleurs, avec des planches magnifiques sur toutes les fortifications qui avaient été faites à Toulouse. C'est un livre tout à fait intéressant, avec les redoutes, l'emplacement des canons. On avait fait tout un système de fortifications pour empêcher l'ennemi d'entrer à Toulouse. Et puis, tout au long du 19e siècle, il y a eu des ouvrages écrits par des militaires, des témoignages racontant cette bataille de Toulouse. L'ouvrage le plus important qui a été fait sur ce sujet, c'est l'ouvrage de Jean-Claude Escalette, présente de façon extrêmement détaillée les unités, les uniformes, et vraiment, si on veut avoir tout le détail de la bataille de Toulouse, c'est l'ouvrage qu'il faut se procurer. Il y a eu un ouvrage plus récent, un ouvrage de Félix Napeau, Pâques sanglante, dans lequel... Oui.
Sanglante
puisque ça a eu lieu le jour de Pâques. Hein.
Oui.
Et alors, c'est écrit à la première personne, comme si ça avait été écrit par un soldat, un officier français. C'est assez... Et il y a une très, très belle iconographie.
D'accord. Alors, ce que l'on apprend, c'est que Soult et ses hommes, est-ce que c'était un général ?
Maréchal.
Maréchal, voilà. Et ses hommes s'étaient repliés à Bayonne durant l'hiver, et ils gagnent Toulouse, quand même, vers la fin du mois de mars. Donc, ils savaient qu'il allait se passer quelque chose au niveau de Toulouse.
Ah oui, tout à fait. L'idée, c'était on va arrêter les Anglais, les Espagnols et les Portugais. On va les arrêter à Toulouse. Et donc, il a mis Toulouse en état de combat, en état de résistance, avec toutes ces redoutes tout autour de la ville. Hein.
Oui, c'est ça, des fortifications. Qu'est-ce qu'on entend par redoutes, exactement ?
Oh, ben ce sont des fortifications assez légères, des petits murs, des tranchées, et puis des canons qui peuvent tirer sur l'ennemi au fur et à mesure qu'il arrive.
Et vous parlez en particulier du quartier Saint-Cyprien, puis des ponts jumeaux. Hein.
Il y a eu trois zones, il y a eu des redoutes tout autour de Toulouse. Hein. Et c'est ce que j'ai essayé dans ce livre, j'ai essayé au fond de faire en sorte que les gens puissent
repérer
les lieux. Voilà, oui. Pour me dire dans la ville, oui. Le livre à la main, et dire tiens là il y avait une redoute, là il y a eu des combats, là il y a eu une charge des Anglais, là les Français les ont repoussés, là les Français les ont pas repoussés. Hein, voilà, à essayer de permettre aux gens de retrouver les lieux de la bataille. Donc des redoutes, il y en a eu tout autour de la ville, mais c'est vrai que les principales, là où ont eu les principaux combats, ça a été l'entrée de Saint-Cyprien, c'est-à-dire le Pont Neuf, c'est-à-dire les ponts jumeaux, et puis c'est surtout la colline le long de la vallée de l'Ers qui va depuis la hauteur du boulevard Pompidou jusqu'à la hauteur de la côte pavée.
Alors, en vous écoutant, je me dis, mais dans le fond, puisqu'il y a eu des redoutes dans tous ces quartiers, ça veut dire quand même qu'ils ont eu le temps, les Toulousains ont eu le temps de préparer certaines choses.
Oui, il y en a eu un mois à peu près pour préparer tout ça. C'était des dispositifs assez légers. Hein. Hein, je vous dis, des tranchées, des petites fortifications. C'était pas la Grande Muraille de Chine.
Hein. Oui. Mais alors, vous disiez, nous étions à la veille de Pâques, se préparer des festivités.
Oui. Hein,
de quelle manière d'ailleurs? Il y avait des...
Ah ben à l'époque, on regardait triste. Hein. Mais enfin, à l'époque, un élément important des festivités, que j'ai connu moi-même d'ailleurs, hein, c'était les reposoirs.
Les reposoirs, oui.
Les reposoirs, voilà. À l'époque, chaque église faisait... alors, à l'époque, c'était même dans la rue. Hein, à l'entrée de l'église, il y avait un dispositif, des tables, des bougies.
Des fleurs.
Oui. Les jours qui précédaient Pâques, on allait regarder tous ces reposoirs.
Et alors, donc, pendant qu'on se préparait à la fête de Pâques, des troupes ennemies arrivaient. Alors, j'ai bien compris, finalement, parce qu'à un moment donné, vous parlez d'une arrivée vers du sud. Je me suis dit, tiens, c'est bizarre, parce que quels étaient les ennemis qui arrivaient ? Vous m'avez expliqué que les Anglais étaient allés rejoindre les Portugais ou les...
Les Anglais, les Portugais et les Espagnols avaient combattu ensemble en Espagne.
Oui.
Donc toute cette armée...
Oui, voilà. Donc ils revenaient du sud.
Ils arrivaient de Bayonne, en réalité. Oui. Ils arrivaient de Bayonne, puis de Bordeaux. Et ensuite, ils ont abdiqué vers Toulouse.
Oui, alors en Espagne, il y avait eu pas mal de défaites qui ont laissé de mauvais souvenirs aux Espagnols. Il paraît qu'ils haïssaient Napoléon.
Ah oui, ça, ils rêvaient de... Toulouse est passée près du pillage. Hein. Mais c'est Wellington, hein, l'anglais, qui a veillé. Alors, notamment,
Anglais sont toujours corrects.
Je ne sais pas. Marcel Kébir, il faudra en reparler. Mais lui, notamment, le lendemain de la bataille, il a installé ses troupes bivouaquant sous les murs de Toulouse. Mais il a veillé à ce que les Anglais soient en première ligne et que les Espagnols étaient derrière. Hein, parce que les Espagnols avaient l'intention, pendant la nuit, d'aller piller Toulouse. Et ça, on les a empêchés.
D'accord. André Cabanis, nous arrêtons là notre seconde rencontre autour de cette bataille de Toulouse. Et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Et puis j'indique à nos auditeurs que cette émission peut être et rediffusée. Et je suis toujours dans l'incapacité de vous dire à quel moment. Reportez-vous sur le programme de Radio Présence.
Merci et au revoir.